E-Radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Emma Colombier et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la place des femmes dans le numérique avec Emmanuel Cacou. Nous sommes deux étudiantes en Master 2 de Sciences Politiques de l'Europe à l'Université de Nantes et nous sommes aujourd'hui sur E-Radio pour l'émission Enquête d'Europe. Le 11 février, c'était la journée des femmes et des filles de la science. 24% des femmes occupent des emplois numériques et 18% des spécialistes des TIC, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication, sont des femmes. Nous sommes ainsi loin de la parité, d'autant plus qu'il y a eu une diminution entre 2013 et 2017 du nombre de femmes diplômées en France dans le secteur du numérique. Alors qu'en Allemagne, c'est l'inverse, il y a une croissance de 53% du nombre d'étudiants, en majorité due à l'implication active d'Angela Merkel. Et aux États-Unis, c'est 8% des femmes diplômées en sciences de l'informatique. Le numérique ainsi semble un modèle encore dominé par les hommes, et on retrouve ainsi les mêmes problématiques usuelles. Avec généralement pour les femmes une pauvre qualité de vie au travail, du harcèlement sexuel et moral, la mise en cause de leurs compétences et une baisse de confiance en soi, et bien évidemment des inégalités salariales. Sur ce point-là, dans le domaine des TIC, les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. On peut relever ici les données de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, avec en Pologne un écart de salaire dans les TIC de 17% avec les hommes, alors que la moyenne européenne est de 11%. À l'inverse, la Suède enregistre un écart salarial de 4%. Ainsi, nous allons nous intéresser aux inégalités dans le monde du numérique.
Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons Sandrine Charpentier. Donc, Sandrine, vous êtes créatrice de Digitaly, une agence de conseil en innovation. Vous êtes également PDG de la start-up Mixity et cofondatrice de l'association à la tête du Digital West. Sandrine Charpentier a plus d'une flèche à son arc afin d'impacter la société en profondeur. Réputée pour son expertise, elle désire mettre l'entrepreneuriat et l'innovation numérique au service de l'inclusion sociale. Nous avons également aujourd'hui sur le plateau Christine Nasberger. Vous êtes enseignante-chercheuse spécialisée en diversité, égalité, inclusion au travail à Audencia depuis 2002. Vous avez enseigné le Human Resource Management. Après avoir obtenu votre doctorat à la Technical University of Munich en 2002, vous avez obtenu une maîtrise en sciences de gestion de l'université Leopold Franzen en Autriche. Vous êtes toujours intéressé aux questions de gender diversity et en fait votre participation active le montre, notamment au bureau de femmes, le Frau Bureau, ou encore à des programmes comme le Matchen Technique visant à attirer des femmes dans le champ de l'ingénierie et de la science. Tout d'abord, un grand merci à vous de nous faire l'honneur d'être sur le plateau de E-Radio aujourd'hui. Je ne peux pas être en présentiel avec vous, mais c'est un grand plaisir de vous entendre du Canada. Alors, la discussion commencera d'abord autour de la réalité des femmes aujourd'hui dans le numérique et des obstacles qu'elles peuvent rencontrer. Nous aborderons également par la suite les initiatives entreprises par les différents acteurs de la société et les actions, les solutions prises afin de venir à bout des problèmes auxquels les femmes font face. Enfin, nous nous interrogerons sur la place des femmes dans le futur et nous survolerons plusieurs initiatives ingénieuses mises en place pour faciliter l'inclusion. Alors, pour commencer, je m'adresserai à vous, Christine, comme nous avons pu l'entendre auparavant dans la petite introduction grâce à Emma. Le pourcentage de femmes travaillant dans le numérique est très faible. Donc, jusque dans les années 90, les métiers de l'informatique étaient des métiers peu prestigieux. Il y avait beaucoup moins d'hommes en informatique et c'était culturellement acceptable que les femmes fassent de l'informatique. Puis arrive la crise de la décennie qui détourne les femmes de ce métier. La représentation de l'informaticien ou de l'individu dans le numérique est devenue celle de l'homme blanc, la trentaine, geek. Donc, d'une part, cette figure, ce stéréotype du geek va contribuer à la construction d'un discours affirmant que ce milieu est inadéquat pour les filles. D'une autre part, ce stéréotype va tenir à l'écart certaines femmes qui se diront en elles-mêmes « ça ne peut pas être pour moi ». Donc, Christine, la question, est-ce que vous pensez que ces représentations sont toujours présentes dans l'imaginaire collectif aujourd'hui et dissuadent les filles de se lancer dans ce milieu ?
Bonjour, merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité à cette émission. Donc je suis très contente de pouvoir témoigner et pour répondre à cette première question. Donc oui, malheureusement, je pense que évidemment les choses bougent, mais à mon goût, ça change très lentement. Donc j'aimerais bien commencer peut-être le débat par les stéréotypes évidemment genrés qui existent encore aujourd'hui et commencer avec l'éducation, par exemple, de nos enfants. Parce qu'évidemment, nous, les parents, on a une responsabilité très importante en offrant des jouets, en fait, sexistes à nos enfants. Parce qu'on voit très bien, dans les catalogues, en fait, surtout des jouets, souvent les pages roses sont dédiées aux filles et les pages bleues dédiées aux garçons. Et ça se voit aussi, les fabricants de jeux ont bien compris que ça fait aussi vendre les boîtes roses pour les filles à l'intérieur des poupées, des dinettes et des boîtes bleues pour les garçons, plus les voitures ou les jeux de construction, etc. Et des chercheurs en fait américains ont ainsi montré que si les filles ne sont pas encouragées à s'amuser avec des jeux de construction, elles ont moins de chances de développer leur esprit scientifique. Donc, on voit très bien, dès les jeunes âges, comment les parents vont finalement intervenir, sans le savoir souvent, dans la future vie presque professionnelle de leurs enfants. Parce que les orientations, ça se fait aujourd'hui très tôt. Et aussi dans l'orientation professionnelle, en fait, il y a aussi des études qui montrent qu'aujourd'hui, aux filles, on propose toujours en fait, les mêmes métiers. Donc on les oriente vers certains métiers parce qu'aujourd'hui la plupart des femmes elles sont cartonnées dans très peu de familles métiers qui sont recensés et les garçons ont davantage de choix. Donc ça c'est des faits qui sont encore une fois aussi prouvés par des études scientifiques.
Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais revenir sur cette question de l'éducation pour vous, Sandrine. Même si en France, les études d'ingénierie se féminisent, 25% de femmes en 2016, 19% en 1999, c'est encore très bas. Avec une répartition très inégale en fait, dans les domaines, on voit en fait, que les filles sont encore en agronomie ou en chimie avec des taux à 57%, mais seulement par exemple 16% en informatique. Ainsi, il y a une massification scolaire, mais elle n'a pas réduit en fait, la ségrégation horizontale des formations. Les femmes restent minoritaires dans les études scientifiques, dans les écoles d'ingénieurs, et à l'inverse, elles sont majoritaires dans par exemple les sciences humaines, et notamment les professions paramédicales. On peut parler ici d'une répartition genrée de ces diplômes qui pourrait amener l'idée vers selon laquelle certaines formations seraient plus compatibles avec des qualités dites féminines, comme les métiers du care, c'est-à-dire du soin de l'intention. Comment briser ainsi ce cercle vicieux qui donne ainsi une vision différentialiste du monde du travail dès l'éducation?
Merci pour cette question. Effectivement, c'est un gros sujet. Et puis tout d'abord, je suis aussi ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Alors sur la question de l'éducation, comme l'a dit Christine très 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 bien juste avant, c'est vrai que finalement c'est un enjeu clé et que malheureusement, quand on regarde les rangs dans les écoles aujourd'hui, dans les lycées et dans les filières scientifiques, informatiques, technologiques, on voit encore qu'il y a très peu de filles. Donc on se dit que finalement le jeu il est plié aussi pour malheureusement encore pas mal de temps. Puisque les lycéens qui sont aujourd'hui sur les bancs de l'école rentreront dans la vie active dans peut-être 5 ans ou 10 ans. Donc il y a un vrai sujet en fait. C'est aujourd'hui encore sur les bancs de l'école, il n'y a pas la relève. Et pourquoi il n'y a pas cette relève? C'est parce qu'on s'attaque pas suffisamment tôt au sujet. Alors, il y a beaucoup d'interventions qui se font de la part des entreprises, des associations qui travaillent sur ces enjeux de féminisation du numérique dans les lycées, dans les collèges, etc. Mais encore une fois, c'est une étape importante, mais le travail, il doit s'effectuer encore plus tôt, c'est-à-dire dans la petite enfance, c'est-à-dire aussi dans le cercle familial. Il y a une étude qui a été menée par l'Epitech, qui est une école d'informatique, et Ipsos récemment, qui dit que 33% des filles sont encouragées par leurs parents à s'intéresser aux métiers technologiques, aux métiers de l'informatique, etc., versus 61% des garçons. Donc, on voit bien que déjà, dans la famille, il y a effectivement ce biais de dire « c'est une fille, donc on ne va pas l'encourager ». À faire des jeux vidéo, à jouer sur Minecraft, à aussi commencer à faire des petites boucles de programmation, à se former au code ou à s'intéresser à des sujets de geek entre guillemets. C'est plus pour mon garçon que pour ma fille. Et tout ça, ça crée vraiment des schémas. Et effectivement, sur les jouets des tout petits, on voit déjà aussi s'appliquer ce genre de comportement qui, par définition, font que finalement les filles se disent. Oh, ça c'est technologique, c'est technique, c'est compliqué et c'est pas pour moi. Et ce phénomène, il s'inscrit aussi dans le langage Avec, par exemple, j'ai lu récemment un truc qui m'a vraiment fait réagir, où quand on parlait de sécurité informatique, dans les années 80, il y avait plus de femmes qui travaillaient dans ce secteur spécifique. Et quand on a commencé à parler de cybersécurité, quand on a commencé à mettre des mots plus complexes, qui donnent l'impression que c'est super compliqué avec tous ces mots anglophones, etc., qui arrivent, où on comprend pas trop de quoi on parle, bah, les femmes se sont dit, c'est plus pour moi, en fait. Et donc, il y a quand même une question globale de modèle de transmission des codes qui est à revoir complètement dès l'enfance, en fait.
J'ai également lu une étude récemment, en fait, qui indique pourquoi, finalement, aussi, les femmes, donc ingénieures, par exemple, ne vont pas aller travailler, justement, dans la tech industry. Et en fait, l'étude a mis en avant trois raisons. Donc, tout d'abord, c'est le fameux plafond de verre. Donc, c'est cette... barrière invisible qui empêche les femmes à accéder à des postes à responsabilité. Donc, souvent dans les grandes structures qui ont une culture aussi organisationnelle, dite assez masculine également, donc traditionnelle et avec des valeurs entre guillemets masculines. Et ça me fait penser justement au deuxième facteur. Donc, la deuxième raison, ce sont les stéréotypes en fait aussi masculins, parce que du coup, les femmes pensent souvent qu'il faut se comporter comme un homme pour pouvoir réussir en fait dans cet univers-là. Donc du coup, ça encourage pas finalement aussi les femmes à aller vers ces métiers-là. Donc il y a aussi encore beaucoup de sexisme et les images qu'on se fait en fait aussi de cette industrie-là. Et le troisième point qui était évoqué aussi dans cette étude, ce sont les inégalités salariales qui apparemment sont plus importantes dans ces métiers-là. Donc normalement, on pourrait penser que c'est un peu le contraire. Et du coup, ça m'a fait également penser à une étude que j'ai lue aussi récemment sur le thème. L'article en fait s'intitule « Plus un pays est développé, moins les femmes font d'études scientifiques ». Donc ça, c'est également très intéressant parce qu'on voit qu'on est des pays qui sont très développés comme les US. On a apparemment 8% donc seulement des diplômés des sciences informatiques qui sont des femmes. À l'inverse, dans d'autres pays comme en Algérie, un pays où seulement 15% des femmes travaillent, elles représentent 41% des diplômés dans ce qu'on appelle le STEAM, donc le domaine des sciences technologiques, ingénierie, et mathématiques. Et c'est pareil dans d'autres pays, on voit de développement comme la Tunisie, le Vietnam, et dans des pays très développés comme la Suède, Belgique ou le Pays-Bas, c'est un peu le contraire. Donc les chercheurs, ils ont appelé ça le paradoxe de l'égalité de genre, et ils ont expliqué, après je pense qu'on peut encore un peu aller plus loin, mais l'idée c'était aussi dans des pays industrialisés, en fait les femmes, elles ont l'embarras du choix pour faire des études. Donc elles vont s'orienter apparemment moins vers des études scientifiques, et dans des pays en voie de développement apparemment, donc il y a une très bonne image des études scientifiques, parce que ça promet une carrière stable et aussi rémunératrice, dans ces pays-là.
Oui, alors pour revenir à ce que vous disiez sur la question de la perception de l'informatique, du métier de l'informatique, je voulais également parler de cette question de prestige, parce que dès le moment où c'est devenu un métier prestigieux, dès le moment où c'est devenu un métier qui gagnait bien, c'est devenu tout de suite approprié par les hommes. Donc, je voulais juste rajouter ça. Mais vous avez également parlé du problème au niveau des jouets, qu'on constatait qu'il n'était pas assez tôt au sujet. Mais il y a également la question des modèles. Et c'est sur ce point que je veux revenir. Vous devez sûrement connaître Ada Lovelace, qui est pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier véritable programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur. Pourtant, malgré tout cela, Ada, elle est restée longtemps oubliée, négligée, malgré une reconnaissance progressive et inattendue. Il a fallu attendre 1979 pour que le département de la défense américain appelle de son nom un langage de programmation, ADA. Il y a également, vous devez sûrement la connaître, Hedy Lamarr, qui est également connue pour avoir eu un impact dans la programmation. Donc ces deux figures féminines sont des modèles, des femmes auxquelles on pense lorsqu'on parle des femmes dans la tech, mais également des exemples pour toutes les femmes. Quel est selon vous, d'ailleurs Sandrine ou Christine, l'impact de ce manque criant de modèles?
Oui, complètement. En fait, si je puis me permettre, Christine, j'avais envie de vous poser une question justement sur ce sujet des rôles modèles. Est-ce que vous avez en tête trois femmes aujourd'hui qui travaillent dans la tech et qui sont des rôles modèles? Généralement, quand on pose cette question-là, on me dit non, bah, j'en connais une, peut-être. Alors, certaines personnes vont nous dire, bah, y a Céline Lazorte, par exemple, qui a créé Litchi, qui aujourd'hui vient de créer une autre belle entreprise. Pour les bons connaisseurs, après, voilà, c'est toujours difficile de se dire un modèle féminin. Après, il peut y avoir Sheryl Sandberg, qui est numéro 2 de Facebook. Mais c'est vrai que ça ne vient pas comme ça spontanément. Alors que si on le demande, citez-moi trois hommes dans la tech qui ont réussi et qui bon, sont pour vous des rôles modèles, on les trouve plus facilement. Donc, ça pose quand même une question de représentation, de se dire qu'on n'arrive pas à avoir des figures qui montrent que on peut être une femme, on peut réussir dans la tech, on peut s'épanouir et on n'est pas obligé d'avoir pour autant les codes masculins pour y arriver. Et ça, c'est hyper important parce que les femmes n'ont pas forcément envie de se projeter dans des codes qui ne leur ressemblent pas. Elles ont envie de se dire, ben voilà, moi j'ai peut-être d'autres aspirations et je veux être moi-même, même si je choisis une voie où il va falloir aussi peut-être mener des projets ambitieux et m'investir énormément pour mener ces projets à bien. Mais c'est, le rôle modèle est hyper important. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu. Et beaucoup d'associations, d'ailleurs, travaillent sur ces sujets, ces questions, pour pousser, mettre en avant des rôles modèles. Il y a une association, par exemple, qui œuvre pour encourager les investisseurs à investir dans des projets portés par des femmes, qui s'appelle Sista. Aujourd'hui, on sait que les femmes ont 30% de chances de lever des fonds versus 100% quand c'est 100% pour les hommes, qu'elles ont depuis 2018 levé uniquement 2% des fonds pour créer des startups versus 92% levés par les hommes. C'est aussi un enjeu clé parce que quand on veut voilà lancer des projets et se développer, il faut pouvoir aussi être financé. Et pour les femmes, c'est encore plus dur parce qu'il y a tous ces stéréotypes, tous ces freins qui reviennent encore. Et donc de mettre en avant des femmes qui arrivent à se développer, à créer des startups qui ont un vrai impact et une vraie aussi un vrai développement international, d'avoir aussi des modèles qui arrivent à se financer et à développer des beaux projets, c'est hyper important pour que peut-être des petites filles se disent ah ben moi demain j'aimerais bien faire ça parce que ce qu'on ne voit pas on peut pas se dire qu'on va être ce qu'on ne voit pas en fait. Donc c'est important de montrer, de démontrer et de montrer des modèles, pas de Wonder Woman qui réussissent, qui sont parfaites, qui paraissent inaccessibles, inatteignables, en se disant bah c'est super mais c'est pas pour moi. C'est aussi montrer que voilà on peut être humaine et qu'on peut aussi avoir une vie équilibrée et mener des beaux projets dans la tech.
D'ailleurs, vis-à-vis des chiffres que vous venez de donner, Sandrine, je m'étais posé une question d'ailleurs. On voit d'un côté qu'il y a vraiment un problème, que ce soit pour dans la vie au travail, quand les femmes sont dans le numérique, c'est-à-dire qu'elles ont tous ces problèmes qu'on a cités de discrimination, de sexisme. Mais d'un côté, on voit que si elles sont juste en non-mixité, que si elles sont que des femmes du coup à créer des entreprises, elles sont en fait totalement handicapées, comme vous avez cité le fait que voilà, 2% des capital risque vont aux équipes entièrement féminines. Est-ce que le choix voilà, de la non-mixité, ce serait un avantage ou plutôt un inconvénient? Est-ce qu'elles se tireraient dans le pied ou pas?
Je pense pas. Enfin, je pense que de toute façon, un projet est bon quand il est bon et que ce soit créé par une femme ou par un homme, c'est pas forcément le sujet. Donc, ça doit être l'angle de sélection d'investir dans des projets ou non. Après, c'est vrai que quand une femme et moi la première, quand j'ai cherché à aller lever des fonds, etc., on a tendance, et ça, c'est malheureusement des schémas d'éducation et sociétaux qui font qu'on a tendance à vendre un projet auquel on croit et qui est réaliste pour nous, en fait. Alors que dans la spéculation de l'investissement, on nous dit tout le temps, quand tu vas lever des fonds et créer ta start-up et vouloir la développer et faire adhérer des investisseurs au projet, il faut leur vendre des projets où dans 4 ans, tu fais 10 millions d'euros minimum. Et en fait, je pense que les femmes liées à un contexte, à une culture et à une éducation qui date, ont tendance à être moins dans vendre du, voilà, des paillettes et du rêve, et à être plus à se dire je promets quelque chose que je pense atteignable. Et ça leur nuit, en fait. Parce que quand on a la compétition des projets qui cherchent à se financer, on va aussi aller vers le projet qui nous emmène le plus aussi dans une ambition. Et c'est vrai que les femmes ont souvent ce réflexe d'être peut-être moins ambitieuses financièrement, parce que plus à être en retrait et dans la réserve pour survendre un projet, en fait. Et donc maintenant, on est formé aussi davantage par des associations comme Sista ou autres, qui nous aident à porter une ambition peut-être un peu plus forte en acceptant de prendre plus de risques. Mais c'est encore une fois des schémas, on va dire, d'éducation et de projection qui ne disparaissent pas en peu de temps, en fait.
Est-ce que vous voulez rebondir dessus, Christine ?
Plutôt par rapport au thème de l'invisibilisation des femmes, parce que je trouve que on vient d'évoquer ça tout à l'heure, que aujourd'hui dans le sphère public, en fait, ça s'explique par le fait que finalement le vécu des femmes ou les paroles des femmes, les pensées aujourd'hui aussi des femmes, ou même le travail des femmes, soit vraiment globalement occulté. Silencieux dans notre ou même oublié, évidemment, aussi dans l'espace public. Il y a des études, par exemple, aussi qui montrent que même l'espace public dans une ville, c'est davantage pour les garçons, par exemple les terrains de foot, donc il y en a, ou les squares ou les parcs qu'on peut retrouver, donc il y a davantage des jeux pour les garçons, et pour les filles on retrouve beaucoup moins. Après, évidemment, aujourd'hui en 2022, on peut se poser la question, est-ce qu'on est encore dans cette binarité ? Est-ce qu'on va pas vers un monde un peu plus non-binaire ? Parce qu'aujourd'hui, la jeune génération joue beaucoup plus sur les codes masculins et féminins. En fait, en même temps, on essaye d'oublier finalement toujours le genre qui peut être derrière. Donc, les jeux, donc c'est à la fois pour les filles et pour les garçons. Et malheureusement, aujourd'hui, en 2022, on n'est pas encore là. Mais espérons.
On garde espoir, c'est vrai. Alors, vu qu'on est sur EU Radio, on va un peu voir comment ça se passe du côté de nos voisins et au niveau de l'Europe. Les pays nordiques, qui sont considérés d'habitude comme des champions en matière d'inclusion et d'égalité. Mais lorsqu'il s'agit de la tech, il y a une étude qui a montré que dans ces pays nordiques, 40% des femmes travaillant dans le domaine de la tech veulent quitter le secteur pour des raisons de sexisme et d'inégalité. C'est quand même étrange. Pourquoi, selon vous, lorsqu'il s'agit du domaine de la tech, ceux que l'on considère comme les bons élèves de l'Europe se retrouvent à faire moins bien?
Je crois que dans le domaine de la tech, déjà, il y a une spécificité, parce que dans les équipes technologiques, les équipes de développeurs informatiques, etc., notamment, ou les gens qui travaillent dans la cybersécurité, tout ce qui va dire infrastructure, réseau, etc., ce sont des équipes qui sont multiculturelles. C'est-à-dire que souvent, on a, comme on a des pénuries de talents, quel que soit l'endroit où on se trouve en Europe, on va aller composer ces équipes en cherchant des profils à l'international. Donc, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et donc, en fait, on est dans une approche culturelle qui est déjà assez différente et où il faut aussi retrouver cette inclusion et faire encore davantage d'efforts, parce que c'est super de vivre la multiculturalité. Ça apporte beaucoup, c'est beaucoup de richesse, c'est une ouverture au monde, une ouverture en termes d'idées, mais c'est aussi un travail sur l'inclusion qui est démultiplié. Et on est sur, effectivement, des cultures où il faut composer aussi. Et quand on a des équipes, notamment anglo-saxonnes, mais pas que, on a ce phénomène aussi dans la tech de la bro-culture, donc la culture des brothers, des potes, qui est très très forte et qui fait que finalement on se retrouve dans des environnements avec des codes très masculinisés, avec les bonnes blagues aussi qui circulent et qui vont avec ce contexte du baby-foot, des bonnes bières et puis des remarques parfois sexistes. Et les filles ont du mal effectivement voilà, à rentrer dans ces codes. Et comme elles sont peu nombreuses, elles peuvent pas non plus faire changer les mentalités facilement parce que elles sont un peu isolées. D'ailleurs, il y a une étude récente de Gender Scan au niveau européen qui vient d'être dévoilée là il y a quelques jours et qui montre encore que 46% des femmes effectivement ont des ressentis de violence sexiste dans leurs environnements de travail. Donc ça change pas, ça bouge pas, ça continue. Et c'est un peu cette broculture internationale qui est là et qui continue d'exister et qui continue effectivement de faire ses mauvais effets.
Ça me fait penser également, donc il y a quelques années, il y avait le hashtag Google Workout. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait, c'était dans le monde entier. Donc les collaborateurs qui travaillent chez Google, ils ont décidé pendant une heure de vraiment quitter les bureaux pour aller à l'extérieur, pour protester justement contre l'ambiance qui était très jugée comme très sexiste. Il y avait beaucoup de discrimination. Il y avait aussi envers les femmes et envers certaines minorités. Et il y avait aussi le fait que les femmes se sont rendues compte que souvent elles sont moins bien payées en fait pour les mêmes postes. Et évidemment aujourd'hui, donc en 2022, on parle beaucoup aussi dans les médias depuis un certain temps ce qui se passe aux États-Unis. Donc on appelle ça the Great Resignation. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une grosse vague de départ en fait de beaucoup de collaborateurs. Et je viens juste de lire dans Le Monde que Capgemini et d'autres entreprises dans l'ESN sont confrontées finalement au même problème. Donc ils ont 20 jusqu'à 35% des collaborateurs aujourd'hui qui quittent l'entreprise. Et d'où ces fameux talents aussi féminins. Et ce qui va apporter beaucoup de tension aujourd'hui aussi sur le marché du travail, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent désespérément aussi des femmes, parce que statistiquement, par exemple, au sein de Google, il y a 32% de femmes. Et on voit par rapport aux études que, évidemment, il y a des questions d'innovation, il y a des questions de marque employeur, et aussi la jeune génération a beaucoup de dans ses valeurs, il y a la question d'égalité et tout ça. Donc du coup aujourd'hui, quand un jeune ou une jeune femme, elle cherche un emploi, il regarde de très près de tout ça. Donc ce que je veux dire, aujourd'hui on est dans un marché qui est orienté candidat, donc les candidats ont l'embarras de choix, et aujourd'hui les entreprises doivent vraiment séduire les candidats pour postuler chez eux et travailler ensuite chez eux.
Vous avez parlé d'une ambiance assez toxique, mais aussi une ambiance toxique en fait derrière l'ordinateur, parce qu'on se rend compte qu'en fait le cyberharcèlement en fait est une haine genrée, puisque ce sont les femmes qui sont les premières victimes, alors même qu'elles ont été les premières à se saisir des réseaux sociaux. Et par exemple, 66% des femmes ont un compte Facebook. Plusieurs études d'Amnesty International se rendent compte que en fait ce sont les femmes les premières victimes en fait de ce cyberharcèlement, et que en fait ça entraîne une silenciation de leur part, c'est-à-dire que c'est une censure sexiste, puisque il s'agit de faire taire les femmes, puisque 32% des femmes qui ont déjà été harcelées ont cessé de publier du contenu. Donc comment faire en fait pour aussi lutter contre cette impunité sur Internet qui rend cet espace hostile pour les femmes, alors qu'elle sert aussi un moyen d'empowerment.
L'éducation, encore une fois, c'est la base de tout. L'éducation, effectivement, il y a plein d'initiatives pour demander, notamment à des acteurs comme Twitter ou Facebook, de faire d'exercer leur rôle de censure. Donc après, il y a des courants de pensée et des approches très différentes entre les différents acteurs des GAFAM sur ces sujets, mais je pense qu'il y a une pression aussi aujourd'hui des États pour que les responsables de ces plateformes puissent exercer pleinement leur rôle de tri, de censure et de maintien, on va dire, de l'ordre digital. Mais l'éducation reste clé. En fait, on voit ça pas que sur Twitter. Enfin, on voit ça aussi dans les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer des actus autour de ces sujets-là, mais mais que ce soit dans le streaming ou que ce soit dans les jeux vidéo, les quelques filles qui sont sur des LOL ou autres plateformes de gaming, elles se font bâcher, insulter, elles ont plein de remarques sexistes et ça c'est terrible et c'est partout en fait. Donc en fait c'est une question d'éducation au départ, mais aussi d'intégrer cette approche dans la formation, dans les collèges, dans les lycées, même si ça se fait. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui doit être beaucoup plus fortement porté, et aux acteurs des jeux vidéo et des plateformes digitales d'exercer leur responsabilité éthique et sociale sur ces enjeux.
Et il y a seulement quelques semaines, en fait, j'ai vu également l'initiative hashtag M sans haine. Donc, c'est justement pour alerter les gens au phénomène ou au fléau du cyberharcèlement. Et donc, l'idée, c'est vraiment que, on est tous vigilants parce que, évidemment, si on est sur Twitter, donc, on peut voir des remarques racistes, des remarques vraiment plein de haine. Et l'idée, c'est que, on a tous un rôle ensemble à jouer, et aussi évidemment les parents, donc comme Sandrine elle vient d'évoquer, c'est aussi important de à la fois alerter les enfants là-dessus et de encourager la parole, parce que dernièrement il y avait aussi quelques cas de suicide par rapport à tout ça.
J'ai même vu que dans le métaverse il y avait eu des agressions sexuelles et je me dis mais waouh, même dans le monde virtuel il y a quand même ces problématiques là qui se présentent. On a peu parlé des hommes, mais leur rôle est très important pour mettre un terme à ces fléaux de sexisme. Et j'aimerais m'adresser à vous. Quels conseils pouvez-vous leur adresser, donc à des hommes du CEO d'une grande start-up de la tech aux stagiaires? Quels conseils pouvez-vous leur adresser afin d'aider à réduire les inégalités?
Moi, je dirais que dans tous ces sujets de l'inclusion, l'essentiel, c'est de se mettre à la place d'eux, et c'est d'essayer de comprendre un peu en se mettant dans les baskets de la personne en face de soi, quelle que soit la diversité. Hein, d'ailleurs, c'est pas que la diversité de genre. De parler, d'échanger. Moi, j'ai toujours au CEO, vous voyez pas trop l'intérêt de mener une politique diversité, égalité, femmes-hommes engagée, parce que première question, c'est quoi le ROI direct, hein? Moi, en termes de business, j'ai plein d'enjeux. Pourquoi est-ce que je devrais adresser ces enjeux-là et y consacrer du temps, des équipes et du budget? C'est de se dire, allez à la rencontre des femmes de votre entreprise, allez échanger avec elles simplement et comprendre ce qu'elles vivent, pourquoi elles vivent ça, de quoi elles ont besoin, de quoi elles ont envie, et de parler de soi en fait. Et ça, c'est humaniser aussi les choses et faire en sorte qu'on petit à petit, on comprend en fait, on s'ouvre à l'autre et on commence à se dire, effectivement... au-delà des KPIs, des politiques, des plans d'action, il y a des gens, et que ces gens-là, si je veux qu'ils aient un sentiment d'appartenance important, qu'ils restent engagés dans mon entreprise, ou que effectivement on puisse créer de la valeur ensemble et de la richesse ensemble, quel que soit que ce soit sur Twitter ou que ce soit dans une entreprise, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre l'autre, c'est ce qui permet de progresser. Moi j'aime bien cette petite phrase là de Pablo Picasso qui disait on n'a qu'une seule vérité jusqu'au jour où quelqu'un d'autre nous fait changer d'idée et nous fait comprendre que voir la vérité autrement et sous un autre angle. Et ça, je trouve ça vraiment, ça résume parfaitement l'enjeu qu'il y a derrière tous ces sujets.
Donc, si je peux rajouter, Sandrine, je trouve que c'est très, très, très intéressant, évidemment, l'approche par justement la direction, parce que, évidemment, on voit aussi dans les études que la direction doit jouer également un rôle modèle. J'aimerais rajouter aussi le rôle clé aujourd'hui des managers. Évidemment, je travaille dans une école de management et je forme aussi des futurs, justement, managers. Donc, moi, dans mes cours, je sensibilise également les étudiants à leur futur rôle et aussi à l'idée de créer une certaine forme de sécurité psychologique, par exemple, autour d'eux. Parce qu'en fait, c'est important de pouvoir parler de beaucoup de choses en entreprise, qu'on nomme aussi les choses, que ça reste pas un tabou, qu'on peut parler du sexisme et évidemment, dans beaucoup d'organisations, aujourd'hui aussi, on est dans une culture vraiment de zéro tolérance. Donc ça, il faut savoir aussi que, et je pense que dans les années à venir, ça va se renforcer. Donc voilà, fini les petites plaques sexistes. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont un peu nostalgiques par rapport à ça, mais nous, non. On trouve que c'est une très bonne chose et c'est important que tout le monde se sente vraiment bien sur, sur nos lieux de travail et qu'on se sente tous unis et inclus. Donc l'inclusion, c'est un peu le mot de la fin peut-être.
En effet, très bon mot pour la fin. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup encore Sandrine Charpentier et Christina Schberger pour cette discussion extrêmement enrichissante. Et bonne journée à vous.
Merci à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.